Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de sport, édition du mardi 2 juillet. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par cette chaude journée. Nous avons une émission fort chargée pour vous. On aura la chance aujourd'hui d'avoir notre nouveau collaborateur F1, Alex Tagliani, qui sera avec nous, qui nous parlera des jeunes qui ont volé la vedette du côté du Grand Prix d'Autriche, évidemment. Et Alex, ça sera intéressant parce qu'il sera en mesure de nous donner un peu, tu sais, le inside. J'utilise le terme en anglais, mais Alex Tagliani qui sera avec nous. On aura la chance également d'avoir avec nous, à compter de 19h30, Luc Brodeur-Jourdain qui sera là. Pourquoi? Parce que jeudi, ça sera son dernier match dans l'uniforme des Alouettes de Montréal. Il tirera sa révérence. Dernière prestation du côté du stade Percival Molson. C'est le match d'ouverture locale pour les Alouettes. Et Luc Brodeur-Jourdain nous parle un peu de ce processus, comment il a accepté l'idée, disons, de tirer sa révérence. Luc Brodeur-Jourdain sera là. Également, gros 1er juillet. Oh, que tout le monde a été surpris de voir Marc Bergevin faire une offre hostile à Sébastien Aho des Hurricanes de la Caroline. Ben aujourd'hui, on sera en mesure de commenter le tout. Benoît Brunet sera avec nous, Philippe Quentin sera avec nous, Marc-Antoine Godin également, directeur de la rédaction et journaliste principal à The Athletic, sera avec nous dans quelques instants. Mais je pense que pour débuter l'émission, c'est important d'y aller avec les réactions du côté des Hurricanes de la Caroline. Aujourd'hui, le propriétaire des Hurricanes, Tom Dundon, a bien voulu prendre le temps, lâcher le terrain de golf et de parler aux journalistes parce qu'il y a eu une offre hostile et les Hurricanes ont décidé de jumeler l'offre du Canadien de Montréal. Donc, à moins de... Non, oubliez Sébastien Aho. J'essaie de trouver des solutions, mais oubliez Sébastien Aho avec le Canadien de Montréal. Et justement, il était en entretien téléphonique aujourd'hui, le propriétaire Tom Dundon des Hurricanes de la Caroline. Et on lui a demandé sa réaction lorsqu'il a appris de la part de son directeur général que les Hurricanes avaient reçu une offre hostile pour Sébastien Aho.
Yeah, there was no consideration taken to any other choice but him playing for the Hurricanes.
Alors, je pense que c'était clair. En aucun temps, on a imaginé Sébastien Aho évoluer ailleurs que pour les Hurricanes de la Caroline. C'est un joueur concession, joueur franchise, évidemment, tout jeune, à peine 21 ans, du côté de Sébastien Aho. On lui a demandé également comment il se sentait d'être confronté avec une offre hostile, parce que c'est assez rare, la dernière étant en 2013. Comment, lui, il a réagi à cette offre hostile du Canadien de Montréal?
I think the other team got manipulated into believing some things that might not have been true, and but the fact that you're asking this question about whether $20 million is a lot of money for me or for the Hurricanes, it's not. It's not a concern. It's not. I'm very fortunate to be in the position I am that this sounds terrible, but writing that check is no big deal. That doesn't mean we don't want to do contracts that, are best for the organization and the players should do contracts best for them.
Alors, évidemment, on veut offrir les meilleurs contrats possibles pour nos joueurs et pour l'organisation. Et tu sais que vous me posez la question si c'est un problème dans la première année d'avoir un bonus de 21 millions. Il dit non, il dit c'est pas un problème pour moi de donner ça. Tu sais que vous me posez la question, c'est déjà de soulever une certaine problématique, mais justement, ce n'est pas un problème. Également, on lui a posé la question, croit-il qu'il a été testé par la confrérie de la Ligue nationale de hockey?
I don't know. Only been in the league, like you said, for a year and a half, so hard for me to know how people act when we're not around. But given the fact that this just happened and it was so ridiculous in terms of probability of succeeding, it's hard for me to know if it's a test. It was quite an easy one.
Alors, le propriétaire Tom Dundon des Hurricanes de Caroline, il dit « Je sais pas si c'est un test. » Il dit « Premièrement, c'est ridicule. » Il dit « Ça fait à peine un an et demi que je suis maintenant dans la Ligue nationale de hockey en tant que propriétaire des Hurricanes de Caroline. » Mais il dit « Ça, c'est un test. » Il a trouvé ça ridicule, soit dit en passant, et très facile. Fait qu'il dit « Il n'y a pas de problème avec ça. » Maintenant, on lui a demandé d'évaluer la stratégie du Canadien de faire une offre hostile, justement, à Sébastien Aho.
« Your probability of succeeding is almost zero, so it's not... I don't, it's irrelevant to me who did it. I don't think it's a great strategy, and I think it's kind of proven that it was probably a waste of time, but it's their right to do it. If that's what they think is the best way to make their team better.
Alors, il a dit, évidemment, on ne sait pas pourquoi utiliser une stratégie pareille. Peu de chances et pas de chances de succès. Il a dit, en fait, c'est une perte de temps. Mais si eux pensent faire de leur formation, de meilleure formation de cette façon-là, eh bien, regarde, c'est eux qui prennent la décision, évidemment, faisant référence aux Canadiens de Montréal. Maintenant, on lui a demandé... Vous savez, dans le point de presse de Marc Bergevin, il a été clair. Il a dit Sébastien Nao a accepté l'offre. Il veut jouer avec le Canadien de Montréal. Se plairait à jouer dans l'organisation du Canadien. Et on lui a posé la question, sachant que Sébastien Nao désirait jouer avec le Canadien, est-ce que ça change quelque chose pour lui?
Yeah, so the question is, do you think you should believe an agent? Right? So that's the question. So you guys can figure that out. But there's no scenario where Sebastian Aho doesn't want to be on the Hurricanes, but it is his right to use that leverage the CBA provides to get the most money from us. And that's all that happened. And I have not heard Sebastian Aho say that. And if he said it, that would be different, but he didn't. And so the fact that an agent said it means there's no credibility to it, number one. And number two, I know what I think of this person and this player, and there's nothing that could make me or the organization not appreciate and respect everything he does for us.
Alors, il a dit, dans le cas de Sébastien Nao, je le sais qu'il n'a pas dit ça. Ça vient de la bouche de son agent. Et est-ce qu'on peut croire un agent? Donc, on met en doute la crédibilité de l'agent de Sébastien Nao, Jerry Johansson. Évidemment, parce que il a dit, ça vient assurément de la bouche de Johansson, que Sébastien Nao voulait évoluer avec le Canadien de Montréal, qu'il aimait l'environnement du Canadien. Mais il dit, je pense qu'il faut peu considéré et donné peu de crédibilité aux propos de l'agent de Sébastien Nao, Jerry Johansson. Disons que dans une soirée, si vous voyez deux personnes jaser et c'est Jerry Johansson et Tom Dundon, tenez-vous proche parce que ça se peut qu'à un moment donné, on commence à se poussailler un peu. Disons qu'il y a beaucoup d'intensité entre les deux personnages. Pour commenter le tout, je vous l'ai mentionné, les directeurs de la rédaction et journaliste principal à The Athletics, Marc-Antoine Godin est avec nous. Salut Marc-Antoine.
Bonsoir, Jérémy.
Bon, OK, t'as entendu les propos de Tom Dundon. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion?
Ben écoute, je me sens personnellement visé quand il dit « Est-ce qu'il faut croire les paroles d'un agent? » Parce que c'est à moi qui ai dit ça, Jerry Johansson. Le fait qu'il croyait que Sébastien Nao voulait jouer à Montréal. Mais en même temps, je pense qu'il y a une distinction à faire. C'est pas parce qu'un joueur veut jouer à Montréal qu'il ne veut plus jouer dans l'autre place. Mmh. Je pense que ce que cherchait principalement Sébastien Nao dans ce dossier-là, c'est d'avoir le contrat qu'il recherchait. Que ce soit à Montréal ou que ce soit en Caroline, la minute qu'il y a eu une offre hostile qui a été déposée, lui, il se retrouvait dans une situation gagnante parce qu'il se retrouvait avec un montant annuel puis avec une durée de contrat semblable à ce qu'il cherchait. Donc, il était mort de rire. Puis après ça, ben ça devenait une question de savoir bon, laquelle des deux organisations était en mesure de plus sauver la face. Et du côté des Hurricanes, ben écoute, je suis pas surpris du tout qu'on déverse du fiel sur l'agent parce que eux, ils vont vouloir sauvegarder leur relation avec le joueur. C'est leur joueur de concession, ils veulent bâtir avec lui. Et puis, ben dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on se tourne vers le tierce parti, vers l'agent qui, lui, de toute façon, c'est tout à fait normal, qui serve un peu de punching bag. Je pense que Jerry Johansson sait qu'il est, entre autres, payé pour ça.
Mais clairement, avec cette offre hostile déposée par Marc Bergevin, on parlera des conséquences et de la suite des choses un petit peu plus tard, mais avec cette offre hostile, on vient de créer jurisprudence. Là, tu as un joueur autonome avec restriction qui vient d'obtenir 5 ans pour pas loin de 42 millions de dollars, 21 millions en bonus à la première saison. Écoute, il y a quelques joueurs autonomes avec restriction et leur agent qui se tape des mains en disant voilà quelque chose qui m'intéresse.
Ben écoute, à chaque fois qu'il y a une offre hostile qui est déposée, ça tend à créer une inflation sur le marché. Donc, c'est clair qu'une situation comme celle-là est à l'avantage des joueurs. Un contrat de 5 ans, ce qui est intéressant dans le cas de AO, le Canadien lui a offert 5 ans parce que lui, il recherchait un contrat qui lui permettrait d'arriver aux portes de l'autonomie à seulement 26, bientôt 27 ans. Et là, il serait encore assez jeune pour pouvoir aller chercher un contrat de durée maximale, un contrat de 8 ans, alors qu'il est encore au sommet de sa carrière. Donc, ça permet, durant la durée de vie des meilleures années d'un joueur, d'aller chercher deux contrats très, très payants plutôt qu'un seul. Donc, c'est vraiment la stratégie que Austin Matthews avait empruntée au mois de février dernier. Et là, Sébastien Nao la répète. Moi, personnellement, je trouve qu'à 8,45 millions par année, c'est peut-être beaucoup d'argent sur la première ou la deux, les deuxièmes années, mais très rapidement, c'est un contrat qui va être très intéressant au point de vue du salaire annuel parce que c'est un joueur qui en vaut la peine.
Ah, clairement. Mais lui, il va faire sauter la banque là, à 26 ans lorsqu'il sera joueur autonome. Autonomie complète. Imagine s'il continue à produire de la sorte, ce gars-là va faire sauter la banque à 26 ans.
Absolument. Puis écoute, c'est pour ça que les Hurricanes, à la base, eux autres, cherchaient un contrat à plus long terme pour lui permettre de racheter des années d'autonomie, puis peut-être d'amortir un petit peu le coût, faire en sorte que ce soit des années un peu moins coûteuses. Puis c'est drôle parce que si tu avais envoyé ce que cherchait le clan AO et ce que cherchaient les Hurricanes devant un arbitre, à mi-chemin, ils auraient à peu près trouvé ce que le Canadien a offert. Donc, je ne suis pas surpris que finalement, les Hurricanes soient un petit peu morts de rire, puis ils disaient, coudonc, finalement, c'est vrai qu'on n'aura pas à négocier avec lui tout l'été, puis on se retrouve avec le joueur qu'on voulait quand même.
Et en même temps, Marc Bergevin a donné un coup de main à l'agent Jerry Johansson parce qu'il a un autre client qui s'appelle Braden Point qui est dans la même situation. Ouais. Donc, lui, il se tourne de bord, regarde le Lightning de Tampa Bay puis dit « Regardez mon jeune, là, Sébastien Nao, regardez ce qu'il a eu. » D'après moi, c'est ça qu'il mérite également.
Oui, mais en fait, je pense que Braden Point va être en mesure d'aller chercher encore plus que Nao. Mais ils sont dans des situations quand même qui sont différentes parce que AO est devenu rapidement à 21 ans la locomotive des Hurricanes, tandis que Braden Point est dans un environnement où il est entouré de joueurs vedettes déjà. Il fait partie d'un concept où à Tampa Bay, on a déjà instauré la culture de dire tu fais partie du club, tu fais partie de la gang et on s'attend pas à ce que tu sois inutilement gourmand. Donc, Stamkos, il y a quelques années, a accepté un contrat à rabais. Edmund, d'une certaine manière aussi. Kucherov, on le voit, il est déjà, il gagne moins d'argent que ce qu'Artemi Panarin est allé chercher hier. Donc, dans ce contexte-là, probablement que Braden Point va accepter un petit peu moins. Mais c'est sûr, encore là, c'est le même agent, Jerry Johansson, qui représente les deux joueurs. Mais sauf que mon impression, c'est que Braden Point, son intention est fermement de trouver un terrain d'entente avec le Lightning.
Marc-Antoine Godin, d'Athletics.com, dis-moi donc, selon toi, quel message Marc Bergevin voulait lancer avec cette offre hostile?
Ben, c'est une excellente question, ça. Le message, écoute, il est le message officiel. En fait, ce que Marc Bergevin a dit en conférence de presse hier, c'était qu'il voulait lancer un message à la fois à son propriétaire, à ses joueurs et aussi allait tout faire, tout mettre en ordre pour pouvoir faire de son équipe une équipe compétitive, une équipe capable de gagner. Donc ça, c'est le message. Maintenant, à savoir est-ce qu'il a pris tous les moyens pour y parvenir dans ce dossier-là, là, je me pose la question parce que à partir du moment où les Hurricanes se montraient en mesure de payer les bonnets à la performance au début du contrat, c'est vrai que ça devenait une offre extrêmement facile pour eux à égaler. Donc, à la base, qu'est-ce que le Canadien avait comme information? Ils ont développé leur filon en se disant, ben nous, on a l'impression que les Hurricanes vont être serrés, vont manquer de liquidité, puis c'est là qu'on peut exploiter une faiblesse dans leur organisation. Je ne sais pas honnêtement s'ils avaient de bonnes informations à ce niveau-là, parce qu'on a entendu Tom Dundon au début du segment. Lui, il a tassé ça comme une poussière sur l'épaule en disant, écoutez, là, c'est ridicule. Alors, c'est quand même un gars qui, je ne sais pas s'il est encore milliardaire, mais il l'a été pendant plusieurs années. Mais écoute, en bout de ligne, le message, c'est que le Canadien veut présenter une image d'agressivité, une image d'équipe qui fonce et qui fait ce qu'il faut pour pouvoir améliorer son équipe. Maintenant que le message est lancé, par exemple, il va falloir que d'autres actions suivent.
Définitivement, parce que le message qu'on a entendu à la fin de la saison et le message qu'on lance aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Il me semble qu'à la fin de la saison, on prônait un petit peu plus de patience et de se fier au développement. Qu'est-ce qui a été la différence entre les deux? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Marc Bergevin sort ses pipes et essaie de faire peur à tout le monde dans la Ligue nationale?
Oui, bien écoute, j'ai l'impression que dans tout ça, Jeff Molson exprime une certaine impatience par rapport au fait que l'équipe a raté les séries trois fois dans les quatre dernières années. Il veut pas que ça se reproduise. Et puis, s'il y a chez le propriétaire un plus grand sentiment d'urgence que chez le directeur général, ça se peut très bien que lui ait fait passer son message en disant « Écoute, là, fais ce qu'il faut pour remettre notre équipe sous les rails dès cette année. » Alors, écoute, c'est une simple lecture des choses de ma part, une simple hypothèse, mais au mois au mois d'avril, le Marc Bergevin qu'on a entendu, c'est celui qui parlait simplement en son propre nom en disant « ben moi, je veux continuer à développer avec mes jeunes, prôner la patience ». et puis le Marc Bergevin qu'on a vu agir dans le dossier Sébastien Aho, probablement influencé par un propriétaire qui veut voir du changement plus rapidement que ça.
Mais dis-moi, Marc-Antoine Godin, de ton côté, quand tu analyses, quand tu regardes ce que Marc Bergevin et les Canadiens ont fait dans cette offre hostile à Sébastien Aho, finalement, est-ce que c'est positif ou négatif?
Ben écoute, ça m'apparaît, moi, comme un coup d'épée dans l'eau. Il n'y aura pas, de conséquences chez le Canadien. T'sais, d'une certaine manière, ça va, à moins que dans 2 ans, les Hurricanes de la Caroline se revirent de bord et disent « Yes, Perica de Konami, viens donc ici qu'on te présente une offre hostile. » Sait-on jamais. C'est peut-être la seule conséquence possible que je vois à cette histoire-là. Évidemment, on va dire chez le Canadien, on tourne la page, c'est réglé, ça n'a pas marché, c'est pas plus grave que ça. C'est vrai que c'est pas plus grave que ça, mais dans l'intervalle, le Canadien ne s'est pas encore amélioré. Vous allez me dire, ben on est le 2 juillet, puis c'est tout à fait vrai. Il reste encore beaucoup de temps avant l'automne, puis beaucoup de manières par lesquelles le Canadien peut continuer de s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est clair qu'il va terminer les 48 premières heures du marché des joueurs autonomes les mains vides. Mais moi, en même temps, je suis un peu en accord avec Marc Bergevin au niveau de la prudence qu'il affiche à l'égard des contrats qui sont donnés. Même Matt Duchesne, un gars qu'il courtisait, je trouve que le contrat de 7 ans, 8 millions par année qu'il lui a donné, c'est beaucoup d'argent parce que c'est déjà un gars qui va arriver à 28 ans. Si on donne ce contrat-là à Max Domi, qui a quoi, 3 ans de moins, ça va être intéressant. Mais je me demande bien où est-ce que ça va aller, tout ça.
Eh bien, si Marc Bergevin, puis je te pose la question, mais c'est quoi, je vais te demander, comme au banquier, tu vas répondre au retour de la pause, OK?
OK.
Si jamais Marc Bergevin avait peut-être pensé un petit peu plus loin que juste l'offre hostile qu'il a remis à Sébastien Aho, si jamais Marc Bergevin, son intention était de shaker un peu le pommier d'autres formations de la Ligue nationale de hockey, peut-être que lui, à moyen terme, ça se peut qu'il trouve quelque chose de positif là-dedans. Écoute, je t'explique tout ça au retour. Prends une pause, un verre d'eau et on se parle au retour. Restez là. En conversation avec Marc-Antoine Godin, directeur de la rédaction et journaliste principal au site The Athletics. Marc-Antoine, je te disais, et tout à coup que Marc Bergevin dans le bureau, là on jase, on discute, OK? Tout à coup dans le bureau, on dit, OK, on dépose une offre hostile. Il y a de fortes chances que les Hurricanes soient en mesure de jumeler l'offre qu'on va déposer. Par contre, il y a une multitude de joueurs autonomes avec restrictions cette année et il y en aura encore plus l'an prochain. On en aura, nous, du côté du Canadien de Montréal l'an prochain avec Max Domi, mais il y a assurément des clubs avec ce type de contrat-là que les agents vont assurément sauter dessus pour être capables de donner jurisprudence, évidemment, à la hauteur de la production de chacun de ces joueurs. Mais il y a peut-être des formations qui ne seront pas capables d'absorber ce genre de contrat-là avec les bonus comme ça, dépendamment, et on ne voudra pas donner le terme aussi court peut-être quand un joueur aussi important qu'un joueur autonome avec restriction, je parle de joueur d'impact. Est-ce que ça se peut que Marc Bergevin dit il y a des équipes qui auront de la misère, il y a des équipes qui seront dans le trouble, et nous, peut-être qu'en shakant le pommier, on sera capable, si exemple, entre autres, Patrick Laine avec les Jets de Winnipeg, peut-être qu'un Nicolas Hiller par la suite sera disponible si on signe ce genre d'entente-là. Est-ce que Marc Bergevin peut avoir pensé aussi loin que ça?
Ben écoute, c'est sûr que le fait que quand tu dis brasser le pommier, c'est sûr que à la minute qu'il y a une offre hostile, peut-être que ça va dégourdir d'autres équipes. Leur donner l'idée, eux aussi, d'en soumettre une à un autre joueur. Et on sait déjà quelles sont les équipes qui sont les plus dans le besoin au niveau les plus à côté sur le plafond salarial. Tu mentionnes Patrick Laine et Nikolaj Ehlers. Lui, il est plus un candidat à être échangé. Il n'est pas joueur autonome avec compensation. Mais les Jets de Winnipeg, c'est clairement une de ces équipes-là. Les Golden Knights de Vegas également, c'est une équipe qui cherche à faire de la place sur sa masse salariale. Alors, si jamais il y a une équipe qui va de l'avant et qui soumet une offre hostile à un joueur de ces deux équipes-là, par exemple à Kyle Connor des Jets de Winnipeg, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que le Canadien, soit après avoir soumis l'offre hostile ou bien en prévision d'une offre hostile, peut-être se tourner vers une équipe comme celle-là pour pouvoir procéder à une transaction. Tu sais, les Jets de Winnipeg ont des éléments. Ehlers, je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait un candidat intéressant pour le Canadien parce que c'est un ailier. Et puis, ce qu'on a pu observer, autant par le fait que le Canadien est allé à la recherche de Matt Duchesne qui a essayé de signer Sébastien Aho, ce que ça suggère, c'est que le Canadien veut continuer de renforcer sa ligne de centre et non pas d'aller chercher du renfort à l'aile. Mais il y a peut-être une équipe, à quelque part, qui aurait un joueur de centre qui serait prêt à échanger. Puis à ce moment-là, ben, le Canadien a des munitions pour pouvoir aller sur le marché des transactions.
Donc, on a entendu également que le Canadien avait de l'intérêt à soumettre peut-être une offre hostile à Burden Point. Comme tu le mentionnes, les joueurs de centre étaient visés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre Max Domi puis le mettre à l'aile? C'est peut-être ça la solution, là?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que Max Domi peut retourner à l'aile, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai été agréablement surpris par sa contribution durant la dernière saison au poste de centre. À terme, tu sais, si Kotkaniemi se développe comme prévu, si Ryan Poehling se développe comme prévu, si le Canadien fait signer un nouveau contrat dans une couple d'années à Philippe Dano, ben Domi, dans la mesure où il restera un Canadien, je pense qu'un jour il va retourner à l'aile. À quel moment ça va se faire, je ne sais pas, mais sauf que c'est une alternative qui est toujours toujours possible. Je sais que le Canadien aime bien avoir des attaquants qui sont capables d'évoluer aux deux positions. Et ce qui est le fun avec Domi, contrairement à Alex Galchenyuk, c'est que il a démontré qu'il pouvait faire les deux, au lieu qu'on se demande 6 ans, 7 ans après son entrée dans la Ligue. Coudon, c'est-tu un joueur de centre ou bien un ailier? Ça, au moins, c'est à l'avantage du Canadien d'avoir un gars comme ça. Mais il va falloir si Sébastien Aho était venu à Montréal, par exemple, il n'y a aucun doute dans mon esprit que Max Domi aurait été transféré à l'aile. Ça va prendre un joueur qui est meilleur que lui pour que ça arrive.
Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Sébastien Aho, cette offre hostile, nous a permis d'apprendre quelques détails intéressants sur Marc Bergevin. Premièrement, qui est agressif, contrairement à peut-être un peu de passivité en fin de saison passée. Et là, on apprend que ce gars-là est prêt à donner des choix repêchage pour des jeunes joueurs qui sont remplis de talent. On était prêt à donner un choix de première, un choix de deuxième puis un choix de troisième aux Hurricanes si Sébastien Aho et les Hurricanes n'étaient pas capables de jumeler l'offre du Canadien. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça de la part de Marc Bergevin.
Oui, mais ça fait longtemps que le tiroir à espoir n'a pas été aussi rempli aussi chez le Canadien. Le fait qu'il y ait une très bonne récolte au cours des 2 ou 3 derniers repêchages, ça place le Canadien dans une bien meilleure position en termes de développement, en termes aussi de façon de monnayer aussi ces jeunes espoirs-là. Déjà, à Vancouver, Bergevin avait dit, ben nous, si devant la bonne offre, on serait peut-être prêt à échanger l'un de ces espoirs-là. Et là, avec l'offre hostile à Aho, ben il dit, ben moi, mon premier choix, je suis pas marié à ce premier choix-là en vue du prochain repêchage. Donc, c'est des atouts de plus. On n'est pas seulement en train de regarder qui, au sein de la formation active du Canadien, Bergevin pourrait échanger. Est-ce qu'il n'est pas seulement limité à échanger Drouin, Byron ou Lekkonen? Il peut aussi regarder du côté de ses choix de pêchage ou de ses espoirs. Mais ce qui est clair, c'est qu'à mon avis, le Canadien, s'il veut se renforcer, il lui manque encore un attaquant et il y a toujours ce fameux trou en défense du côté gauche qui n'a pas été rempli ni par le marché des joueurs autonomes ni par le biais des transactions. Alors, moi, mon attention va se tourner de ce côté-là au cours des prochains jours.
Marc-Antoine Godin, directeur de la rédaction et journaliste principal à TheAthletics.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir, Jérémy.
Merci, Marc-Antoine Godin, qui nous parlait de cette offre hostile de Marc Bergevin envers Sébastien Aho et les Hurricanes de la Caroline. Donc, aujourd'hui, on apprenait que le propriétaire va jumeler cette offre du Canadien de Montréal. À surveiller, marché des joueurs autonomes. Là, si vous dites le Canadien n'a pas signé encore, il faut attendre, ça commence le 3 octobre. Jake Gardiner, toujours pas signé. Ryan Dezingle, toujours pas signé. Michael Ferland, toujours pas signé. Dionne Phaneuf, c'est bon, hein? Saison peut-être, Dionne? Petite saison. Pas trop cher, une petite saison. On fait une courte pause. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. Au retour, Philippe Quentin est avec nous.